Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte.
Rigo, c'est toi ? Je crois que tes petits missionnaires se sont paumés en route. Et là, vous voyez un homme massif qui fait son entrée par la porte menant au bureau. Il doit bien faire 1m90, ou peut-être même un peu plus, et sa physionomie est celle d'un véritable ogre. Il doit bien peser au moins 150 kg et ne démériterait pas dans une ligne défensive de football américain. Il porte un pantalon de sport et un maillot de corps légèrement humide. Il a une serviette de bain à la main. Son visage est anguleux avec une mâchoire très large. Il est rasé de près et ses yeux bleus d'eau n'expriment aucune émotion. Il porte ses cheveux décolorés en brosse et on peut remarquer à ses oreilles, à ses arcades, à son nez, à ses lèvres et même sur ses bras divers piercings et autres modifications corporelles.
Donc il nous voit, j'imagine, quand il arrive.
Très clairement, en arrivant, il voit immédiatement ceux qui n'étaient pas sous occultation, c'est-à-dire Marcy, qui se trouve juste en face de lui, Armance qui se trouve un peu plus loin et Ulysse qui se trouve aussi au niveau du corps, j'imagine.
Ouais.
Rigo, je connais ce...
Eh là, qui êtes-vous ?
Bonsoir monsieur, on cherche monsieur McCullen, que vous le connaissez.
Le type se jette sur Marcy immédiatement, avec une rage visiblement non feinte.
Marcy essaie évidemment de prendre la fuite.
Alors tu vas plutôt partir sur de la défense du coup.
Évidemment, elle se sent pas du tout d'attaque pour résister le combat avec une armée pareille.
Alors du coup, Marcy va faire un jet de dextérité plus athlétisme, ce qui lui fait 4D.
Peut-être avec une petite puissance du sang.
Un coup de sang, tu veux dire, ça te rajoute 2D. 4 succès et le coup de sang est réussi pour Marcy. En face...
25D.
5 succès contre la difficulté de 4 imposée par Marcy. L'homme particulièrement imposant se jette sur elle et vous pouvez voir que dans un geste ample, il l'agrippe par le col et la soulève du sol.
Elle va crier spontanément « Attendez !» en français.
Ça n'a pas l'air de le faire réagir, là il a l'air de vouloir en coller une à Marcy. Les autres, qu'est-ce que vous faites ?
À partir du moment où le mec avait l'air de se jeter sur Marcy, Ulysse avait commencé à courir, j'imagine, vers lui pour essayer d'intercepter. Maintenant qu'il a Marcy en main, la question se pose un peu. Il peut intervenir sans que Marcy se fasse arracher en...
Oui, bien sûr, tu peux probablement essayer d'attaquer justement le bras avec lequel il l'a soulevé. Tu peux l'attaquer plutôt au corps. Il y a moyen que tu t'en prennes à lui sans que Marcy soit impacté.
Ouais, le bras est une bonne idée, effectivement. Et je vais l'attaquer au bras pour essayer de la faire lâcher.
Donc c'est un jet de force plus bagarre, qui fait 5D. Est-ce que tu veux faire un coup de sang ?
Ouais, j'aime bien les entières plus brutales.
Donc ça fait 7D pour ton attaque. Bon, 6 critiques, mais ça c'est un messy critical.
Et du coup j'ai fait un coup de sang qui du coup ne me rajoute pas de soif par contre.
Bon du coup, boucherie ?
Alors, bon, boucherie, là, il n'y a pas vraiment de risque de brèche de mascarade. Là, on va partir sur une pulsion de destruction, de voir son ami, sa partenaire de coterie, se faire agresser devant ses yeux. Ça met la bête d'Ulysse dans une colère noire. Il se rappelle encore des blessures que Pete et Marcy avaient subies de la part des Nosferatu dans le sous-sol de Saint. Et là, il a clairement pas envie que ça se reproduise. Au lieu de te contenter de passer à une autre cible lorsque ton adversaire tombe inconscient, tu te mettras à le déchiqueter.
Charmant.
La seule chose qui passe par la tête d'Ulysse pour le moment, c'est que cet homme doit disparaître.
Work in progress.
Tu as fait 6 avec un critique. Le coup d'Ulysse est tellement brutal que Marcy tombe au sol.
le bras de l'homme encore attaché à elle, mais le bras n'est plus attaché à l'homme. Que fait Armance ? Armance reste peut-être figée de peur, c'est pas vraiment son truc.
Oui, elle fait un en mettant ses mains à sa bouche.
Que fait Pete ?
Pete va se saisir du revolver qu'il a au niveau de sa chaussure, le pointer en direction de l'individu qui vient d'attaquer Marcy, même s'il y a perdu la main. Et très calmement, je vais m'avancer de lui jusqu'à être pratiquement à bout portant pour avoir l'opportunité de, si je peux, de lui tirer une balle en pleine tête. Je pense que je vais peut-être, tu vois, passer un tour pour prendre le temps de viser.
Si, il est encore debout. C'est...
Alors, nouveau tour, ça va être à Marcy d'agir.
Et ben Marcy va saisir son couteau. Elle est un peu tombée à terre, elle repousse difficilement le gros steak de bras qui doit peser un tiers de son poids. Et elle va se tendre en avant pour essayer de poignarder le pied du type qui est en face.
Très bien. Marcy va attaquer. Ulysse est dans une furie destructrice. Là, c'est Wolverine. Donc je pense qu'il se jette dessus également.
Ouais, de toute façon, prochain tour, je recommence.
Il se retrouve à combattre les deux en simultané. Marcy qui se jette sur lui avec son couteau. Ulysse qui fend l'air avec ses griffes acérées. Lui, il lui manque un bras, mais ça n'a pas vraiment l'air de l'incapacité. Vous allez lancer du coup vos pools respectifs. Donc pour Ulysse, c'est 5D. Et pour Marcy, c'est 5D également.
Je pense que, étant donné ce que tu m'as décrit... je vais continuer à acheter des coups de sang jusqu'à que ma bête au moins augmente d'un cran.
Très bien. Tu lances 7 dés du coup, vu que tu fais un coup de sang, et Marcy en lance 5.
Bah, je pars en coup de sang aussi.
Tu fais un coup de sang aussi, donc 7 dés également. 4 succès du côté d'Ulysse, et 5 succès du côté de Marcy. Alors je vais lancer ses dés à lui. Lui aussi va faire un coup de sang, mais il va devoir partager son pool de dés entre vous deux. Marcy se jette en avant pour planter son surin dans le pied de l'homme qui se promène en basket là pour le moment. La lame pénètre et reste fichée dans la chair. Malgré la surprise que lui provoque ce nouveau coup dans le pied, cette lame qu'on lui enfonce dans la chair, il parvient à attraper un des bras d'Ulysse et à l'empêcher de lui lacérer le visage. Par contre, l'autre bras d'Ulysse parvient à frapper au niveau du torse, déchirant le maillot de corps qu'il portait avec la chair qui part avec comme si c'était du papier. L'homme est en très mauvaise posture. C'est à Pete de jouer. Du coup, Pete, du temps que tu as pris pour assurer ton tir, je te donne 2 dés supplémentaires.
Ok. Le doigt sur la détente, toujours l'arme pointée dans sa direction. Je continue d'avancer. Je sais pas à quelle distance t'estimes que je puisse être. Mais idéalement, tu vois, je vise peut-être moins d'un mètre ou deux, quoi. Vu que de toute façon, pour l'instant, il ne me voit pas.
On n'a pas pris le bouchon d'oreille, alors tire pas trop près de nous, quand même.
Le fait que vous ayez découvert ce lieu caché, etc., je pense que c'est suffisant pour que la compulsion de Pete soit arrêtée. Et donc là, il est tout à son affaire. Donc lance ton pool de dés sans malus.
Donc ça ferait 5 de base plus les 2. On est à 7, on est d'accord.
Voilà.
Toujours bon en maths. Et la soif, j'ai dit que j'étais repassé à 3 puisque ma soif a augmenté tout à l'heure.
5 succès. Marcy et Ulysse sont probablement aussi surpris que l'homme qui se trouve en face d'eux quand ils entendent la détonation de l'arme à feu. La balle traverse le crâne de l'homme qui se fond au sol.
Et je lui balance Do you feel lucky, punk?
Il gît maintenant à vos pieds. Avec son corps massif qui, en tombant, a probablement emporté une table ou un truc comme ça. Ça fait un peu de vacarme, mais il se retrouve maintenant au milieu des débris et des objets qui étaient laissés ici et là, que ce soit d'anciens outils qui avaient été abandonnés ou d'autres objets qui avaient été amenés pour installer ce petit camp de fortune. Une fois l'homme au sol, abattu par la balle de Pete, Ulysse se jette dessus et le déchiquette de ses griffes. Les coups ont fini par sectionner la tête. Le cadavre a retrouvé son état d'origine, pourrissant à vue d'œil. Vous entendez la voix de Nathaniel qui commente. Il se trouve au niveau du corps du Nosferatu qu'il est en train d'observer. Et vous pouvez l'entendre dire, alors qu'il reparaît devant vous à présent, « Pas mal !»
Mais vous êtes un peu trop bruyant.
Rigo, je connais ce nom. C'est un français. Donc ça doit être le français dont le prêtre parlait.
Et moi, j'ai d'intelligence plus occultisme.
8, du coup.
Ça fait 5 succès. Armance se rappelle de ce nom. Elle en a entendu parler quand elle était à la cour de Paris. Rigo, c'est le nom d'un prêtre du sabbat. Et pas des moindres. Son passage en région parisienne avait mis la région à feu et à sang. Et il avait fallu l'intervention de Villon pour le faire fuir.
C'est quelqu'un de puissant. Un patriarche du sabbat. Il a créé tant de souffrance à Paris que le prince lui-même a dû abattre son ire sur sa pauvre tête. Il a bien résisté d'ailleurs, mais il a fui, fort heureusement.
Ah, le sabbat, je déteste ces types.
Il a dû voir une opportunité pour semer le chaos. Quelqu'un de très dangereux.
Et du coup alors, il aurait attiré McCullen dans une histoire comme quoi il aurait la solution à sa malédiction et...
Il faut en tout cas prévenir le prince.
Moi, je jette un coup d'œil du coup au vampire en torpeur accroché au plafond et je demande à Nathaniel « Et celui-là alors, c'est McCullen à votre avis ou rien à voir ?»
Nathaniel est en train d'examiner son visage. Il a porté sa main au doigt effilé jusqu'au menton du Nosferatu martyrisé. Il se contente de dire « Je crois que c'est lui, une simple outre à Vitae. »
Vraiment ? Qu'est-ce qu'il est devenu ?
On est en train de dire que ce repère, ce serait pas celui de McCullen, mais finalement celui de Ringo.
C'est pas Ringo. C'est pas un membre des Beatles.
c'est pas Gringo.
C'est Rigo.
Rigo, ah, désolé.
Nous, tu sais, les noms français.
Moi, je vais l'appeler Gringo.
Et par contre, pour ouvrir la possibilité d'apprendre des pouvoirs d'une autre lignée, il suffit de boire un peu de sang.
Ouais, tu peux goûter son sang, effectivement.
Eh ben, Marcy va lécher la lame de son couteau. Ouais.
Marcy qui s'accroupit pour lécher la lame de son couteau, sent qu'il s'agit donc de Vitae, qui est particulièrement plaisant pour n'importe quel vampire. Là, à partir de maintenant, Marcy sera capable de développer, si elle le souhaite, les disciplines de puissance, de célérité, de force d'âme.
Et moi, en le déchiquetant, ça me donne le truc que je peux prendre ou pas ?
Si tu lèches tes doigts, ouais.
Vas-y, je le fais.
T'es un brujat, du coup ?
C'est très difficile à savoir avec les membres du sabbat parce que comme ils partagent tous leur sang, en général, les membres du sabbat ont souvent des pouvoirs qui sont plus nombreux et plus diversifiés que les membres de la Camarilla.
En tout cas, c'est bien ces trois excellentes disciplines.
Je peux soustraire les informations de son sang.
Attention, si ce Rigo arrive, et Armand, d'après toi, c'est quelqu'un de particulièrement puissant, on a intérêt à rester sur nos gardes.
Oui.
Moi, j'aurais tendance à vouloir filer avec McCullen. On peut l'amener au shérif, il sera content, il aura trouvé son bouc émissaire, nous ça nous débarrasse d'un problème. Et puis qui sait, peut-être que Ulysse sera débarrassé de la faveur qu'il lui doit, ça lui fait suffisamment plaisir.
Bon, on peut peut-être quand même fouiller rapidement cet endroit, on aura peut-être des informations, des indices.
Ouais, j'aimerais bien trouver effectivement une preuve que Rigo était là.
Oui. Oui, oui, parce que là c'est pas juste avec le nom, on a bien vu quand on a essayé d'alerter ces imbéciles sur l'existence de ce complot... Nous ont rayonné, donc c'est pas juste en leur disant qu'on a entendu prononcer le mot Rigo qu'ils vont se mettre sur le pied de guerre, quoi.
Mais il est peut-être là en train de nous observer.
Possibilité.
Par contre, pendant que vous êtes en train d'échanger, vous vous rendez compte soudain que Nathaniel n'est plus là et que le corps du Nosferatu a été séparé de sa tête.
Ah oui, donc il a tué McCullen, super.
Eh ben au moins, celui-là, il sortira pas de torpeur.
Sa tête séparée de son corps a commencé à se décomposer, laissant des lambeaux de chair tomber au sol qui se transforment eux-mêmes en pourriture et en cendres. C'est assez dégoûtant et il y a une odeur nauséabonde qui a envahi le garage.
Il parlait à Rigo quand il arrivait. Rigo est peut-être en train de nous observer. Il était, tout comme vous, discret. Il doit nous observer, mais il n'est pas idiot. Nathaniel est fort. Nous allons vous traquer, cher ami. Je ne vous laisserai pas faire ce que vous avez fait en France. Nous allons bien nous amuser, ne vous en faites pas.
Pas de réponse, bien entendu.
Pendant qu'Armance parle toute seule, moi je fouille un petit peu la pièce aux alentours, voir si j'arrive à trouver quoi que ce soit dans ce bric-à-brac.
Est-ce que vous allez fouiller les bureaux, du coup ?
Ouais, effectivement.
Ouais, moi j'ai fouillé le bureau d'où sortait le gros loustique.
La salle dont il venait, du coup, le bureau, vous constatez dès que vous arrivez que ça a été aménagé en refuge clos. Les vitres sont toutes barrées de planches et de tissus. Les meubles ont été poussés pour laisser place à plusieurs grosses cantinières métalliques pouvant servir de cercueil d'urne. Il y a une petite salle d'eau où il y a encore de la lumière et une sorte d'archive. Il y a l'air d'avoir des affaires un peu partout quand même et il y a possibilité d'investiguer un petit peu pour essayer de trouver potentiellement des choses intéressantes. Donc ce sera un jet d'investigation. Résolution plus investigation, celui qui a le plus avec un bonus de ceux qui l'aident.
C'est nul. Nul de chez nul.
Moi j'ai 5D.
Armand ça 5 aussi.
Alors moi je n'aide pas et je cherche comment foutre le feu à tout le bazar.
Peut-être celui qui a le moins en soif va lancer. Donc ce serait Armance.
Peut-être plus Armance, ouais, puis je lui file un coup de main.
Donc 5D de la part d'Armance. Pete l'aide, ça fait 6. Marcine n'a pas de compétence là-dessus, donc elle ne peut pas aider. Et Ulysse n'aide pas, du coup. Hein. Lui, il cherche autre chose dans son coin.
Ouais, je cherche de mon côté comment faire brûler le bâtiment si je trouve des bidons de trucs inflammables. Dans...
Très bien. Armance a fait 6 succès, mais avec un Messi critical.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, la dernière compulsion qu'on n'avait pas vue.
On va partir sur une compulsion de domination qui, dans un contexte social comme ça, pousse le vampire à transformer une conversation courtoise en exercice de surenchère et va se montrer un peu arrogant, rabaisser les autres. Armance a trouvé des choses, elle le sait bien et va faire état de sa supériorité aux membres de sa coterie.
Bon, dépêchons-nous. Devrions pas perdre de temps, surtout envers Rigo. Allez!
Armance fouille les pièces, aidée par les autres. Elle va dire à certains « Non, on a déjà regardé là, arrête. » En tout cas, vous arrivez à trouver un certain nombre de choses intéressantes. Déjà, un espèce de manuscrit, un livre qui se trouve mêlé à d'autres affaires moins attrayantes dans l'une des cantinières. Ça ressemble à un espèce de carnet manuscrit datant au moins de plus d'un siècle compte tenu du vieillissement du papier. Mais il faudrait probablement un regard d'expert pour en savoir un peu plus. Le titre qu'en a donné l'auteur anonyme est... Note sur les légendes des Manumini ou Mamak Sektao. Ça a l'air d'être une sorte de prise de notes d'un spécialiste ou d'un local sur les traditions d'un des peuples natifs américains de la région. Il y a un autre objet très intéressant que vous découvrez. C'est une boîte, une espèce de boîte en métal où sont amassées de nombreuses photos sur lesquelles on peut voir au marqueur des noms qui sont notés. Il y en a une, c'est marqué Nash, Gauguin, Naomi, Saint, Genghis, Capone. Il y a même ces ghouls qui sont notifiés à côté. Et il y en a d'autres encore. Il y a même une photo d'Armance, sous son véritable nom.
Oh.
La plus surprenante reste tout de même une photo nommée Nathaniel, mais on voit seulement une silhouette floue, comme si la pellicule n'avait pas réussi à garder une trace tangible du Nosferatu. Des croix rouges ont été ajoutées sur un certain nombre de photos. Gauguin, Capone, Naomi, Saint, Nathaniel.
Est-ce qu'il y a l'écrivain du Blue Moon Café ?
Oui, c'est Saint.
Oui, et Naomi, c'est la directrice de...
Ah oui, c'est elle. Ok. On les reconnaît.
Et eux, ils sont rayés, ça ?
Il y a une petite croix rouge sur les photos.
On ferait peut-être bien de prévenir ceux qui sont cochés. Au moins Nathaniel, même si je le porte pas dans mon cœur.
Pourquoi je suis dedans, dans la boîte ?
Moi, je... Est-ce que j'ai un stylo sur la main pour faire une petite croix sur la photo d'Armance ?
Oh, putain.
Le stylo en question doit être probablement dans les affaires à côté.
Par pure malice, hein, Marcy essaye de rajouter une petite croix très discrètement sur la photo d'Armance.
Marcy est pas particulièrement discrète dans sa petite blague. Du coup, Armance remarque que Marcy est en train de toucher aux photos.
Elle va te gifler la main. Mais vous êtes stupide ! Ce n'est pas un jeu ! Vous prenez pour qui ? D'être si jeune. Et toi, Marcy, tu es censé être vieille, mais finalement, ton âge te va bien à ta mentalité. Vous êtes stupide. On devrait se dépêcher. Rigo n'est pas un plaisantin.
Ah.
Et question, est-ce qu'il y a son nom complet ? Parce qu'elle n'a pas dit son nom complet à ses compagnons non plus.
Oui, il y a son nom complet.
Alors, elle a vite plié la photo pour la mettre dans une poche.
Oh, mais Armand, c'était pas si moche sur cette photo.
Non. Elle va, du coup, commencer à se retourner pour... vite la déchirer et l'avaler.
Bah, Marcy va essayer de partir en courant dans le hangar.
Marcy parvient à arracher la photo d'Armance qu'elle s'apprêtait à déchirer pour se la fouer dans la bouche.
Marcy, tu n'as pas à faire ça ou je te tue. Est-ce que tu comprends? Sois gentil, hein. Il s'agit de mon nom.
Est-ce que moi j'ai l'opportunité de rassembler les autres photos pour les conserver?
Oui, bien sûr.
C'est peut-être pas moi qui ai trouvé le premier livre qui parlait de la culture amérindienne, là. Mais à défaut, je pense que les photos, je les mets dans le journal de McCullen pour avoir tout ça au même endroit, histoire qu'on puisse faire une petite pochette surprise pour le shérif.
Marcy, juste, elle rigole, elle se comporte vraiment pour le coup comme une gamine. Une sale gosse, elle part un peu en courant dans la pièce avec la photo.
Est-ce que pendant ce temps, j'ai réussi à trouver de quoi faire cramer tout le bazar et potentiellement à revenir ou pas?
Alors, Ulysse a commencé à faire un peu le tour du garage. Ne trouvant rien, il est sorti par la porte de derrière pour essayer de voir si dans les alentours, dans les hangars, etc., sur le parking ou des choses comme ça, il y aurait peut-être des vieux bidons qui avaient été laissés ou des choses similaires. En fait, quand il a ouvert la porte et qu'il a vu l'espèce de cour en terre qui se trouvait derrière le bâtiment, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un problème. Une dizaine de tombes. Une dizaine de trous creusés dans la terre, des tombes ouvertes, avec visiblement quelqu'un ou quelque chose qui a pu s'en extirper.
Ok, bah du coup il abandonne son plan de faire cramer les trucs momentanément et j'imagine qu'il comprend pas ce que ça peut être. Et du coup il arrive dans la pièce en plein milieu de petit numéro de Looney Tunes.
Marcy est en train de courir et d'esquiver les deux restes de cadavres, c'est-à-dire l'espèce de masse informe dégoûtante qui a coulé sur le sol à la place du cadavre du membre du sabbat et des meubles renversés avec Armance qui court après elle gentiment.
Ah oui, elle la poursuit. Hein.
Et Pete ne prête aucune attention à ses chamailleries.
Du coup, d'une voix assez élevée, il dit « Est-ce que quelqu'un pourrait venir m'expliquer ça ?»
Je me tourne vers Ulysse et je te demande « Qu'est-ce que t'as trouvé ?»
Je ne sais pas trop. J'aimerais bien votre avis.
Ok, du coup, intrigué, je sors dehors. Essayer de comprendre ce qu'a pu découvrir Ulysse. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des tombes. C'est pas un cimetière ici, pourtant.
Elle lâche un cri en tombant sur le sol. Vous n'êtes pas mes amis. Sommes une coterie.
Ah, ça va, Arbance, tiens, je te rends ta photo. Et elle la laisse un peu tomber au sol et elle se précipite quand même pour voir, reprenant un peu de sérieux et avec un peu d'inquiétude, en fait, de se dire que c'était peut-être pas très sérieux et que c'est peut-être encore dangereux.
Elle va ramasser la photo, peut-être à quatre pattes. Vous êtes méchant et stupide. Je pars.
Armand, viens voir ici.
Non. Et elle part. Stupide, stupide, stupide.
Ulysse jette un regard un peu chargé de reproches à Marcy. Même si Armand, c'est chiante, c'est pas la peine de l'exciter.
Marcy, elle hausse un peu les épaules en disant « Bah, ça va. »
Je vais la chercher, je vais essayer de lui faire reprendre raison.
Donc Pete part à la suite d'Armance, qui n'a pas le temps d'aller bien loin, elle s'est retrouvée au niveau de la voiture à peu près.
Elle va pas s'arrêter, hein. Vu sa compulsion, là elle est en plein dédain, surtout après ce qui s'est passé, elle est totalement froide.
Et j'essaie de t'arrêter, je t'interpelle « Armance !» Armance, écoute-moi 2 minutes, bon sang.
Non, ne me touche pas.
Je veux pas te toucher, je veux te parler. Écoute, je comprends, je sais que c'est pas cool ce qui vient de se passer. On sait que Marcy est une gamine, on sait que tu vaux mieux qu'elle.
Justement, ce n'est pas une gamine, elle est plus âgée qu'elle en a l'air, et elle sait très bien ce qu'un nom.
Oh, mais te vexe pas pour ça, bon sang.
C'est pas de continuer à claquer sur le sol.
Allez, tu sais qu'on a besoin de toi. J'essaie un peu de te flatter, de te montrer que tu comptes pour nous, que t'es importante. On n'aurait jamais pu aller jusque-là sans toi et on a encore besoin de tes talents, alors pars pas toute seule dans la nuit.
Non, je rentre chez moi. Je me ramènerai les informations. Vous m'avez énervé.
Armand, si tu veux rester avec nous, je te promets, on fait un détour par McDonald's tout à l'heure.
Par contre, Armand, ça a aucune idée d'où elle se trouve à Chicago.
Ouais,
là.
Ouais, mais écoute, merci. Hein,
elle va essayer de voir s'il n'y a pas un taxi quelque part pour le aider.
Elle est en pleine zone industrielle.
Armance, un peu de sérieux, tu vois bien que le soleil va pas tarder. Reste avec nous, je te ramène. T'es pas obligé de parler à Marcy.
Bien parce que je suis obligé.
Est-ce que vous revenez du côté des tombes, du coup ?
Oui, elle y va. Confrontée à l'inévitable.
Pour Marcy, pour Pete, pour Ulysse, là, ce qu'ils voient, c'est des trous qui ont été creusés dans la terre. Et ça donne l'impression que quelque chose qui était sous terre en est sorti, comme des trous de taupe presque, mais à taille humaine.
Sacré taupe.
Par contre, pour Armance, qui a des connaissances occultes assez avancées, ça fait aucun doute. C'est totalement une pratique du sabbat. Quand ils font une étreinte de masse, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des simples soldats du sabbat sont souvent appelés des têtes de pelle, parce qu'on les assomme dès qu'ils sont étreints, on les enterre et on attend qu'ils ressortent du sol la nuit suivante.
Oui, c'est la chair à canon.
C'est la chair à canon, et là, visiblement, il y a 10 trous.
Ce sont des vampires. Ça vient du sabbat. Ils font ça pour des grandes guerres.
Attends, t'es en train de me dire qu'il y a une dizaine de mecs du sabbat qui est en train de déambuler dans Chicago, là ?
Ce sont des vampires de basse catégorie, mais néanmoins rapides, violents, sans la moindre jugeote. Ce sont des chiens de la milice, la chair à canon.
Je vous ai déjà dit que je détestais ces types. Bordel.
Il y en a peut-être un peu moins de 10 après notre aventure au Blue Moon.
Ah, mais je pense pas que ça soit les mêmes.
Ils préparent quelque chose de gros.
Mais il faut absolument qu'on aille prévenir la cour.
Oui, la cour. Là, nous avons suffisamment de preuves.